glorifions et nous te remercions surtout de ce que tu nous as donné et serviteur pour nous instruire dans ta parole, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est déjà entre tes mains, mais Seigneur, je veux encore que tu le fortifies, Seigneur. Et puis que vraiment, à travers, Seigneur Dieu, ta parole, Seigneur, tu vas toucher encore des cœurs ce matin. Puisque je sais qu'à travers lui, tu as une parole pour chacun de nous ce matin. Que nous soyons attentifs, Seigneur, et que nous ouvrons grand notre cœur, Seigneur, pour réceptionner cette parole encore ce matin. Dans le nom de Jésus, amen. Merci, Seigneur. Mon frère Wally.
Bonjour, bonjour mes frères visibles et les frères et sœurs invisibles. Puisque je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent à travers Zoom et nous bénissons le Seigneur pour les prouesses technologiques, n'est-ce pas? Mais avant que de lire le passage pour notre méditation, je voudrais juste partager une pensée qui m'est venue ce matin. Et je dois vous dire, elle m'est venue alors que je faisais mon lit, ça m'arrive, et je voudrais juste lire un passage qui se trouve dans Hébreux chapitre 3, et que, versets 4 à 6. Nous lisons ceci, « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. » Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ les confie sur sa maison. Et c'est qui sa maison? Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alors, ce que je voudrais souligner ce matin, juste dans cette époque, cette saison particulière, que nous devons nous rappeler, nous sommes la maison du Seigneur. Mais il y a ici quelque chose qui m'interpelle, c'est-à-dire pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il y a un serviteur de Dieu qui a étudié la situation et qui a prédit lors du premier confinement que 20% de l'effectif de l'Église a décroché, c'est-à-dire qu'on ne le reverrait plus dans l'Église. Et dans un certain sens, nous constatons cela. Et frères et sœurs, aujourd'hui, il y a une expression, nous avons des chrétiens pyjama, c'est-à-dire des chrétiens qui regardent le culte maintenant à travers leur maison, ils n'ont même pas besoin de se changer d'habit, n'est-ce pas, ils peuvent garder leur pyjama. Et on a donc une situation spéciale. Frères et sœurs, nous voulons être la maison du Seigneur, l'Église que le Seigneur Jésus construit, mais pour cela, nous avons besoin d'être fidèles et persévérants jusqu'à la fin. Alors, je vous encourage dans la mesure du possible d'être présents dans les différentes réunions où l'on peut être présent, prière, études bibliques, et puis donc j'espère que bientôt aussi, ce sera possible de nouveau pour tout le monde d'assister au culte. Bien, après avoir dit cela, je vous invite tout de suite à ouvrir votre Bible dans le premier livre de la Bible, donc ce n'est pas difficile. Nous allons faire une lecture ensemble dans Genèse chapitre 14 et j'attends donc pour que quelque chose se passe. Hein? Il n'y a pas? Oh, que c'est dommage. C'est dommage. Bon, d'accord, alors on le fait sans, comme Abraham, qui n'avait pas non plus de zoom. Ok, alors on lit ensemble Genèse chapitre 14, et je vais lire à partir du verset 17. Alors on va lire ensemble. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer, et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Comme vous avez l'habitude de donner la dîme de tout, n'est-ce pas? Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, et lisez bien ce qu'il dit, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. » Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, eux, ils prendront leur part et nous lisons ensemble. Amen. Et je vous demande de garder votre Bible ouverte parce que nous allons revenir sur certains de ces passages. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler d'un chrétien chinois qui est devenu d'ailleurs très connu. Il s'appelle Watchman Nee. Il a écrit toute une série de livres qui ont été traduits dans je ne sais pas combien de langues. Et Watchman Nee, il a rédigé un ouvrage qui s'appelle « Transformer à sa ressemblance ». Et donc, dans ce livre, il parcourt un peu la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. « Transformer à la ressemblance du Seigneur ». Autrement dit, pour Watchman Nee, ces trois patriarches ne servaient pas seulement pour constituer le peuple de Dieu, c'était également donc Dieu voulait intervenir dans la vie de chacun d'eux. Et frères et sœurs, ce matin, nous voulons être conscients que c'est exactement ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Il veut nous transformer à sa ressemblance. Et je suis d'avis que l'expérience que nous venons de lire, donc Genèse chapitre 14, a contribué à transformer Abraham et le rendre plus semblable à l'image de son Dieu. Alors, tous ceux qui ont déjà été en métropole, vous avez certainement eu l'occasion de voir un panneau au niveau des passages à niveau, un panneau qui dit ceci, un train peut en cacher un autre. Vous connaissez ça? Un train peut en cacher un autre. Bien, frères et sœurs, nous pourrions appeler cela ou appliquer cela aussi à notre situation. Une tentation peut en cacher une autre. Un combat peut en cacher un autre. Et c'est ce que nous voyons dans notre passage. Alors, je vous encourage d'ailleurs à lire le chapitre entier chez vous. Je vous donne toujours des devoirs, n'est-ce pas? Alors, donc, le devoir sera de lire la totalité du chapitre 14. Et dans la première partie, vous allez vous apercevoir que Abraham, il s'est impliqué dans un combat héroïque, désintéressé, dans le but de délivrer son neveu Lot et de récupérer ses biens. Donc, alors, voilà, nous avons changed the likeness. Et puis, donc, non, ça ne marche déjà pas. Ah, voilà. Non, ça ne marche pas. Bon, on laisse tomber. Ça ne fait rien. Alors, de toute façon, donc, Abraham, comme nous venons de lire, il revient d'un combat, il est victorieux, mais maintenant, il y a un autre combat qui l'attend. Et c'est un combat d'une toute autre nature. Alors, si vous avez bien lu, dans notre passage, il est question de deux rois. À vrai dire, c'est vraiment le paragraphe des rois, parce que le mot « roi », que ce soit dans le singulier ou dans le pluriel, il est mentionné 6 fois. C'est vraiment le chapitre des rois. Mais ici, Abraham, il rencontre 2 rois. Et donc, d'un côté, il y a le roi Melchisédek, et d'autre part, nous avons le roi de Sodome. Et je voudrais donc noter, que vous notiez, la façon dont notre paragraphe commence. Alors, relisez avec moi le verset 17, où nous lisons ceci, « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor la Homère, et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Alors, je voudrais dans un premier temps insister sur le fait qu'Abraham est sorti victorieux de ce combat, n'est-ce pas? La raison pour laquelle j'y insiste, c'est parce que Abraham n'a pas toujours été victorieux. Lorsque vous retournez juste deux chapitres, chapitre 12, là, Abraham, il a vraiment essuyé une cuisante défaite. Et c'était en rapport avec sa femme Sarah et Pharaon qui a voulu l'intégrer dans son harem. Et la Bible nous fait comprendre que donc, il a été béni, Abraham, mais maintenant Abraham a appris une leçon. Son secret donc, parce qu'il est maintenant victorieux, c'est parce qu'il a appris par son passé. Alors, voilà, nous devons tous apprendre par notre passé. Est-ce que nous apprenons par nos fautes, nos péchés, nos échecs? Est-ce que nous apprenons quelque chose par ce que nous avons vécu dans le passé? Vous avez ici une déclaration qu'on attribue à Hegel, le philosophe allemand, donc, qui a dit que l'histoire nous apprend que nous n'apprenons rien de l'histoire. C'est une déclaration tragique, mais au fond qu'il fait. Par exemple, après la Première Guerre mondiale, les gens ont dit « plus jamais un horreur comme celui-ci ». 20 ans plus tard, on a été plongé dans une deuxième guerre mondiale. La question est, est-ce que nous voulons aussi apprendre par notre histoire personnelle afin que nous ne commettions plus les mêmes erreurs et les mêmes péchés? Alors, ce que je voudrais souligner également dans ce passage, c'est que Satan contestera toujours nos victoires. Retenez cela. Satan contestera toujours nos victoires et il fera de son mieux pour que nous ne restions pas victorieux. Alors, il a une devise et cette devise dit « Un chrétien peut gagner une bataille, mais moi, je veux gagner la guerre. » Vous avez entendu? C'est la devise de Satan. D'accord, un chrétien peut gagner une bataille ici et là, mais moi, je veux gagner la guerre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de rester toujours vigilants. Alors, nous avons ici dans notre texte, il est question d'une vallée. La vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Vous savez peut-être que dans la Bible, les vallées ont une signification, symbole, image, de test, d'épreuve, parfois de tentation. Ça peut aussi être une image d'une vie de défaite, parce que nous parlons du sommet de la montagne quand nous sommes dans la victoire et nous sommes dans la défaite, dans ce cas-là, nous sommes dans la vallée. Alors, mais une chose est sûre, quand nous passons par une vallée quelconque, le Seigneur voudrait nous donner la victoire. Il voudrait que nous servions de nos vallées pour grandir spirituellement. Je me souviens avoir lu un poème avec le titre « C'est dans la vallée que je grandis ». Alors, mon ami Case, qui a été souvent ici, il disait que ce ne sont pas tellement les bénédictions qui nous font grandir spirituellement. Ce sont surtout nos épreuves et combien il a raison. Alors, la Bible parle de plusieurs vallées. Le temps ne nous permettra pas de les énumérer et d'apprendre par leurs messages qu'ils transmettent. Ce que je voudrais maintenant surtout souligner, c'est cette fameuse vallée de Chavé. C'est une vallée de la plaine, n'est-ce pas? Mais qui est également appelée vallée du roi. Cependant, vous avez peut-être noté qu'on n'explique pas de quel roi il s'agit. Je voudrais vous faire une proposition. Alors, je vous donne plusieurs possibilités. Est-ce que c'est la vallée du roi parce qu'il y a Melchisédek qui a fait son apparition et qui a montré sa bénévolence, sa générosité en bénissant Abraham et ses hommes? Est-ce que c'est la vallée du roi parce qu'il est question du roi de Sodome qui est venu avec une tentation ô combien subtile? Je voudrais vous faire encore une troisième proposition. Elle va vous surprendre. Mais il pourrait s'agir d'Abraham. Alors, mais vous dites, Abraham, comment? Abraham n'a jamais été un roi, n'est-ce pas? Mais je vous pose la question, si vous devez décrire un roi, si vous donnez une particularité d'un roi, qu'est-ce que vous proposeriez? Un roi règne, n'est-ce pas? Et nous voyons comment Abraham a régné lors de cette nouvelle tentation, lors de ce nouveau combat qu'il a eu avec le roi de Sodome. Il a régné, il est resté victorieux, il a triomphé, il a régné. Je voudrais partager avec vous un passage que l'apôtre Paul a écrit aux Romains, et c'est un passage, je pense, que sa signification échappe à bien des chrétiens. Voilà, vous l'avez maintenant sur l'écran. « Si par l'offense d'un seul, pardon, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ?» Or, quand nous parlons du chrétien qui règne, je ne parle maintenant pas du millénium qui va venir, pour certains, je ne parle pas d'un règne sur la nouvelle terre, je parle d'un règne ici-bas, pendant notre vie. Et comment pouvons-nous régner? Eh bien donc, nous pouvons régner, entre autres, par nos prières, nous pouvons régner par notre intercession, nous pouvons régner par notre combat spirituel que nous menons avec sagesse, intelligence, discernement. Nous pouvons régner par nos jeûnes. Et je voudrais vous rappeler ici qu'il y a un livre écrit par Derek Prince, un serviteur de Dieu bien connu. Et donc, quand il dit comment façonner l'histoire par le jeûne et la prière. Vous avez noté ici, façonner l'histoire. Autrement dit, nous influençons l'histoire par le jeûne et par la prière. C'est une forme de règne, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que la reine Marie Stuart d'Écosse disait qu'elle craignait John Knox, le réformateur, et ses prières plus qu'une armée de combattants? Imaginez un peu. Voilà, c'est une reine. C'est elle qui règne en général, mais elle a peur. Elle a peur de qui? Elle a peur d'un réformateur, d'un homme de Dieu. Elle a peur de ses prières, parce que les prières de John Knox étaient puissantes, efficaces. Autrement dit, John Knox a régné par ses prières. Alors, je voudrais parler d'un règne, d'un aspect du règne spirituel. C'est que nous triomphons de nos tentations et de nos difficultés, de nos épreuves. Nous avons un exemple dans le psaume 84, que vous connaissez probablement, où il est question de la vallée de Baca. C'est la vallée de larmes, c'est la vallée de pleurs. Et la Bible nous dit que grâce à la confiance que nous faisons au Seigneur, parce que nous nous appuyons sur le Seigneur, nous transformons cette vallée de Baca, cette vallée de larmes, cette vallée de pleurs, un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alors, le verset 17 fait donc mention du roi de Sodome qui vient à la rencontre d'Abraham, mais vous allez constater que tout de suite après, on parle du roi Melchisédek, c'est-à-dire on retarde un peu avec les intentions du roi de Sodome. Alors, il y a un autre roi qui fait son apparition, Melchisédek, roi de Salem. Nous devons faire une petite radioscopie de cet homme. Nous devons comparer les deux. Alors, tout d'abord, Melchisédek veut dire roi de justice ou encore mon roi est justice. Donc, il est roi de Salem et la plupart des interprètes pensent qu'il s'agit ici de Jérusalem, n'est-ce pas? Shalem, qui vient de Shalem, qui veut dire paix. Il est donc le roi de paix. Et en plus, il a encore quelque chose, il n'est pas seulement roi, il est aussi sacrificateur. Autrement dit, il remplit deux des trois offices qui avaient droit à l'onction. Alors donc, le troisième office serait celui de prophète. Oui, il est donc sacrificateur du Très-Haut. Et Melchisédek vient en tant que donateur. Est-ce que vous avez noté cela? Il fait apporter du pain et du vin. C'est-à-dire, c'était des aliments de base. Donc, et ainsi, je voudrais que vous vous mettiez à la place d'Abraham et de ses hommes, ses combattants, qui viennent d'un combat, d'une bataille, qui ont parcouru une longue distance. Ils doivent être fatigués. Et voilà un roi, sa majesté, qui vient pour soutenir, pour rafraîchir Abraham et ses combattants. Et ainsi, pour ainsi dire, Abraham est préparé, il est équipé pour cette nouvelle épreuve qui l'attend dans la personne du roi de Sodome. Alors évidemment, vous avez certainement tous entendu parler de Melchisédek. Vous savez qu'il est un type, il est une image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le psaume 110, David en parle, n'est-ce pas? Mais c'est surtout Hébreux, chapitre 7 en particulier, qui détaille ce roi Melchisédek. Et donc, qui nous montre la ressemblance entre Melchisédek et le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, il est aussi le roi de justice. Il est aussi le roi de paix, n'est-ce pas? Et surtout, il est aussi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il y a effectivement une ressemblance. Donc, Melchisédek est un type de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en tant que souverain sacrificateur, notre meilleur Melchisédek, le Melchisédek supérieur, il intercède. Regardez ce que nous dit Romains chapitre 8. Nous avons donc, où nous lisons, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, c'est-à-dire, c'est la position de toute puissance, d'autorité. Et qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, il intercède pour nous. Frères et sœurs, si personne ne prie pour vous, on t'oublie totalement, il y a toujours quelqu'un qui prie pour toi. Et c'est le Seigneur Jésus. Alors évidemment, le pain et le vin que Melchisédek apporte nous fait penser à la Sainte Cène. Mais je voudrais dire, ne poussons pas la typologie trop loin. Ce que je voudrais surtout souligner, c'est le fait que Melchisédek apporte des éléments qui rafraîchissent, qui équipent et qui préparent Abraham pour sa nouvelle épreuve. Et d'autre part, nous avons en Jésus notre pain et notre vin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il est notre pain. Autrement dit, il veut également nous fortifier, il veut nous rafraîchir, il veut nous équiper pour nos combats. Mais il y a encore plus. Parce que Melchisédek n'apporte pas seulement du pain et du vin, il fait encore quelque chose de plus, parce qu'il est celui qui bénit. Regardez le verset 19. Donc, il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Et en bénissant Melchisédek, il a rendu Abraham participant des grâces et des bienfaits de l'éternel Dieu. Mais j'attire votre attention sur la façon dont Melchisédek bénit son serviteur. Parce qu'il utilise un terme, El Elyon, le Dieu très haut, c'est-à-dire le Dieu qui est au-dessus de toutes les choses, le Dieu qui est aussi au-dessus de tes circonstances, aussi pénibles et difficiles qu'elles puissent être. Et vous savez, dans la situation actuelle avec le coronavirus, il se peut que vous en subissiez directement ou indirectement les conséquences. Vous vous trouvez peut-être dans une situation de précarité. Sachez que notre Dieu, c'est El Elyon. C'est le Dieu très haut. Il n'y a personne au-dessus de lui. Et il maîtrise chacune de nos situations. Alléluia! Mais il est aussi le maître du ciel et de la terre. Alors, quand vous consultez d'autres traductions, vous allez vous apercevoir que ce passage, ce terme n'est pas traduit de la même façon. Alors, il y a par exemple ceux qui l'appellent le créateur ou le propriétaire ou le possesseur. Littéralement, le terme employé signifie celui qui possède par acquisition. Voilà, donc vous l'avez là. OK. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que lorsque nous avons le Seigneur comme notre Dieu, nous avons celui en qui nous avons tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous avons tout en notre Seigneur. Et vous savez, il se peut que le portefeuille soit vide, mais le compte en banque du Seigneur, il est toujours bien fond. Et tu peux faire appel. L'apôtre Paul, il a compris cela. Parce que, regardez ce qu'il dit à plusieurs reprises. Je commence par Philippiens 4, 19, que vous connaissez. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ensuite, Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 6, quand il dit ceci, « Nous sommes comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs. Nous sommes comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. » Ce matin, je voudrais t'encourager de façon réelle. Fais appel au Seigneur. Compte sur lui dans tes besoins, quels que soient ses besoins, que ce soit financier, matériel, physique ou autre, il est la source de notre bénédiction. Et puis, aux Colossiens, l'apôtre Paul, il dit « Car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. » Frères et sœurs, nous devrions quand même encore dire quelque chose par rapport au geste de bénir. Nous disons tellement facilement que Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Et c'est devenu une formule comme ça, souvent vide de véritable signification. Ça peut être un geste religieux, pieux. Mais je voudrais que ce matin, vous preniez conscience de la réalité de la bénédiction. Alors, premièrement, nous devons nous souvenir qu'en tant que chrétiens, nous constituons un royaume de sacrificateurs. Nous sommes le nouveau sacerdoce. Nous sommes ce sacerdoce que Dieu a toujours voulu. Déjà avec Israël, mais Israël a échoué. Alors donc, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, les chrétiens constituent un royaume de sacrificateurs. Et vous savez, une des tâches d'un sacrificateur, c'est de bénir. L'apôtre Pierre, par exemple, il nous en rappelle cette vérité quand il dit « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » C'est-à-dire, tout en bénissant les autres, nous sommes au bénéfice des bénédictions du Seigneur. Mais au fond, que veut dire bénir? Est-ce que nous voulons dire pas « je te bénis » Alors, je voudrais vous proposer les possibilités suivantes. Mettre le nom du Seigneur sur une personne. C'est ce que vous lisez dans Nombre chapitre 6, en rapport avec ce qu'on appelle la bénédiction aaronique. Vous pouvez peut-être relire cela cet après-midi dans votre Bible. C'est un magnifique passage, une bénédiction riche, triple bénédiction. Et là, le Seigneur dit, c'est ainsi que vous mettez mon nom sur le peuple. Donc, on associe le croyant au nom du Seigneur, on lie le croyant à Dieu. Et d'autre part, nous faisons quelqu'un participant des faveurs, des grâces, des bienfaits du Seigneur. Donc, quand nous bénissons quelqu'un, c'est quelque chose de très réel. Vous savez, comme une malédiction trouve son chemin et fait ses ravages, de même, croyons que nos bénédictions ont leur chemin et apportent grâce et faveur. Et je voudrais juste vous rappeler ceux qui ont encore des enfants, donc de les bénir régulièrement, bénissez-les pour leurs études, bénissez-les en les protégeant. Vous savez, nous savons par expérience qu'il y a des enfants qui sont harcelés à l'école, qui sont méprisés, et donc qui ont la vie difficile. Nous pouvons bénir nos enfants. Mais nous pouvons également bénir notre patron, bénir l'entreprise pour laquelle nous travaillons. Nous pouvons bénir notre commune, notre maire. Nous pouvons bénir notre gouvernement, et à vrai dire, nous devons le faire, n'est-ce pas? Voilà. Alors donc, puisque le temps, il avance, je dois sauter ici quelque chose, et je voudrais maintenant venir à la tentation. Donc, alors on saute quelques dias certainement. Et après cette belle rencontre d'Abraham avec Melchisédek, il a la rencontre avec le roi de Sodome. Et pendant un instant, comparer les deux rois. Melchisédek vient pour donner, apporter, pour bénir. Regardez les premières paroles du roi de Sodome. C'est « donne-moi ». Alors, c'est vraiment diamétralement opposé, n'est-ce pas? Et nous pouvons nous poser la question ce matin, mais où se trouve le piège du roi de Sodome? Alors, tout d'abord, dans un premier temps, je voudrais vous proposer que le roi de Sodome est en quelque sorte un type de Satan. Il est le roi d'une ville pécheresse. Donc, autrement dit, il est le patron de cette ville, une ville extrêmement pécheresse. Et nous pouvons dire que Sodome et Gomorrhe représentent le monde. Et donc, le roi représente Satan. D'accord. Alors, et ici, le roi de Sodome offre à Abraham de s'enrichir grandement et de s'enrichir rapidement par le butin, n'est-ce pas? Et le butin devait être énorme. Autrement dit, la tentation était énorme pour Abraham. Et il aurait pu raisonner, je veux agrandir ma réputation, mon influence dans la région, qui est déjà assez grande. Je pourrais assurer mon avenir et l'avenir de mon héritier. Il aurait pu raisonner comme ça, et je veux profiter tout simplement de ce que m'on propose. Mais je voudrais vous dire, ici, il a compris quelque chose. Et vous savez, le Seigneur Jésus lui-même, il nous avertit contre les dangers des richesses. Vous vous rappelez, il a parlé de mammon. Donc, autrement dit, l'argent qui est personnifié. Et Jésus nous a fait comprendre que nul ne peut servir deux maîtres. Il nous avertit contre l'avarice, la cupidité. Il dit de ne pas rassembler ou ramasser des trésors sur terre, mais au ciel. Il dit que nous devons être riches en Dieu, pas riches en biens matériels, mais riches en Dieu. De sorte que l'apôtre Paul, il a résumé le tout quand il a dit « Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Un esprit, une mentalité de contentement et de ne pas céder aux attraits de l'argent et des richesses. Alors, vous savez, la Bible ne dit rien de cela, mais nous ne savons pas ce que Abraham a ressenti en voyant l'immense butin. Mais il a résisté. Alors, je suis tout simplement ravi par ce que vous lisez au verset 22 et 23. Relisez avec moi. « Je lève la main vers l'Éternel. » C'est un geste de un vœu, n'est-ce pas, une promesse, un serment. Voilà, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Est-ce que vous notez quelque chose ici? Abraham a appris un nouveau nom tout à l'heure, quand Melchisédek l'a béni, quand il a utilisé El Elyon et maître du ciel et de la terre. Abraham a appris il a reçu une nouvelle révélation de son Dieu. C'est pour la première fois qu'il entend ce nom. C'est la première fois dans la Bible que cette expression est utilisée. Et maintenant, tout de suite, Abraham lui-même utilise cette même appellation. Alors, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham, rien pour moi ». Mes frères et sœurs, il y a une raison pour cette attitude. Tout à l'heure, je vous ai dit, il a appris par le passé, il a appris par ses fautes. J'ai mentionné le chapitre 12 où il descend en Égypte, d'ailleurs sans consulter le Seigneur, où Pharaon s'approprie de sa femme Sarah et où Abraham est béni parce que nous lisons, nous lisons ceci, que Pharaon traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. Mais c'était des biens mal acquis. Il n'avait pas dit la vérité, il a dit, Sarah, c'est ma sœur. C'était partiellement vrai. Mais on dit que les demi-vérités sont des mensonges entiers. N'est-ce pas? Je m'attends à votre amen, mais personne ne dit ça. Donc cela, c'est moi qui le dis. Alors, Abraham a appris une leçon. Et cette fois-ci, il ne va pas commettre la même erreur. Et il résiste. Il résiste à la tentation. Et je m'imagine que du haut du ciel, le Seigneur et les anges ont suivi avec une grande attention ce scénario. Et lorsque Abraham a levé sa main vers El Elyon, je vois le sourire sur le visage de l'Éternel. Il a dit, bravo mon ami, tu as encore grandi dans mes voies. Tu me ressembles davantage. Alléluia. Alors, en conclusion, frères et sœurs, c'est que Abraham, il est rentré chez lui, il n'était pas plus riche matériellement, mais il était plus riche spirituellement. Il a pris du poids. Alléluia. La question est, est-ce que nous voulons suivre ses traces? Est-ce que nous aussi nous voulons nous laisser transformer par les circonstances que le Seigneur permet dans notre vie? Et je voudrais juste terminer par une dernière pensée. Voilà, et ça c'est donc la dernière pensée, c'est une question de seigneurie, parce que là, dans cette vallée de Chavée, la vallée du roi, Abraham a dû répondre à la question, qui est réellement seigneur de ma vie? Et il a répondu, je l'abandonne. Une question à laquelle chacun d'entre nous doit répondre ce matin. Qui est réellement seigneur de ma vie? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Merci Seigneur. Amen. Père, les Écritures sont la vérité. Tu as dit que ta parole est la vérité. C'est par elle que tu nous sanctifies. C'est par elle que tu nous édifies. C'est par elle aussi que tu nous transformes et que tu nous fais grandir. Père, je voudrais te louer pour l'exemple de ton serviteur Abraham, pour la façon dont il a pu résister à la tentation. Et nous aide à l'imiter, à rester debout, à rester ferme lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous passons par cette vallée de l'épreuve et de la tentation. Je te loue, Père, de ce que tu veux nous rappeler aussi que nous pouvons bénir les autres, car en tant que sacrificateur de la nouvelle alliance, tu nous appelles non pas à maudire, mais à bénir. Alors que nous puissions grandir dans ce ministère de sacrificateur. Et en même temps, j'élève ton nom pour le fait que tu es notre souverain sacrificateur et que tu intercèdes pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes jamais oubliés. Tu nous soutiens. Tu es notre pain. Tu es notre vin. Tu nous équipes pour que nous restions debout lorsque nous passons par des moments difficiles. Sois loué et sois béni. Et ce matin, nous voulons dire oui, Seigneur. Nous te reconnaissons pleinement comme notre Seigneur. Nous voulons que tu règnes sur notre vie, sur tous les domaines de notre vie, dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Et pendant un instant, gardons juste les yeux encore fermés. J'ai l'impression que parmi vous qui m'avez entendu, il y a quelqu'un qui fait actuellement face à un combat particulier, un combat dur, et il faut surtout que tu restes debout. Il ne faut pas que tu puisses flancher, que tu puisses céder à la pression, céder aux attaques du malin. Alors c'est pour toi que je voudrais prier particulièrement que Dieu te soutienne dans ce combat, que tu restes victorieux, que tes yeux restent fixés sur Jésus et qu'à l'instar d'Abraham, tu puisses résister, tenir bon. Je te bénis dans ce sens, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Et soyez tous bénis. À bientôt.